C'est bien. Bon, Jean-Luc m'a recommandé de ne pas oublier de vous transmettre les salutations de l'EPEB, l'Église protestante évangélique baptiste de l'île sur la Sorgue. Nous sommes très heureux de cette proximité, nous sommes très heureux de ce que le Seigneur fait ici. Voilà, alors j'ai fait la commission, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que nous pouvons contempler ta parole, nous en nourrir, nous savons qu'elle est riche. Seigneur, qu'elle transforme nos vies. Et nous désirons vraiment, Seigneur, que ta parole transforme nos vies. Seigneur, merci. Merci parce qu'elle est vivante. Nous t'en bénissons. Merci de nous l'avoir donnée. Merci de nous conduire au travers d'elle, par elle, Seigneur. Nous t'en sommes reconnaissants de tout notre cœur. Amen. Vivre ensemble l'évangile. C'est le mot d'ordre qu'on avait choisi pour figurer au-dessus de la porte de notre local, de notre petit local. Alice-Louis, il s'appelle l'annexe maintenant. Un jeu de mots pour interpeller les passants, mais pas seulement, puisque notre but était aussi que chaque membre de l'Église les garde en mémoire chaque fois qu'il entrerait dans le local. Alors, puisque c'est un mot d'ordre qui nous engage tous, les membres de l'EPEB, mais aussi, et pas seulement, ceux de l'EPEC aussi. Et même si pour vous, ça ne se passe pas à l'île sur la Sorgue, que ça se passe à Cavaillon, c'est un appel rassembleur en lui-même. Pardon. Tous ensemble, et chacun de nous, avec nos singularités et nos différences. Alors ce matin, nous pourrions orienter nos regards vers cet objectif qui, je l'espère, nous tient tous à cœur, vivre ensemble l'Évangile à Cavaillon. Et pour cela, quoi de mieux que de porter nos regards fixés sur Jésus, comme nous le recommande l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Alors, voilà pourquoi, au travers de ce mot d'ordre de l'Épître aux Hébreux, voilà pourquoi j'ai choisi de nous plonger dans ce texte de l'Apocalypse de Jean, qui nous présente une éclatante vision du ciel, et surtout, cette présence de l'Agneau de Dieu en son centre, tel que cela lui a été révélé. Alors, on va le lire. Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 9. Alors je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à sept sceaux. Et je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte : qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit : ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vient prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il lui prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. » N'y a-t-il pas là un tableau grandiose de cette bonne nouvelle qui est l'Évangile, la bonne nouvelle, le salut de toute l'humanité par l'œuvre de grâce qui nous est offerte au travers de cette vision de l'agneau immolé. Une vision qui nous fait apparaître l'agneau de Dieu dans le ciel comme présence centrale du tableau qui nous a été fait. Et dans cette vision, il nous est décrit ce qui entoure la présence de Dieu, le trône, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, et puis le fameux livre scellé avec sept sceaux. Alors plusieurs ont spéculé sur la signification de ce rouleau du livre, mais le fait qu'il soit scellé nous indique qu'il s'agirait d'un testament. En somme, nous pourrions raisonnablement penser que ce livre renferme la description des jugements et des actes rédempteurs qui mènent au royaume de Dieu. C'est en quelque sorte le livre du destin dont Dieu seul en est l'auteur. Mais ce qui est particulièrement significatif dans ce récit, ce n'est pas le contenu du livre, mais le rapport de ce livre à la personne même du Christ. Puisqu'il est notoire que le rejeton de la racine de David, le lion de Juda, c'est le Seigneur Jésus, l'agneau immolé qui se tenait debout au milieu du trône, avec les sept cornes illustrant l'image de la toute-puissance et les sept yeux, l'image du savoir, de la connaissance. Notons aussi le fait essentiel que seul l'agneau est digne d'ouvrir le livre et d'en révéler le contenu. Alors quelle assurance nous donne cette vision qui confirme la présence parfaite de Jésus-Christ dans la Sainte Trinité? Quelle vision grandiose du ciel! Le Christ y occupe la place centrale, debout au milieu du trône, en unité avec le Père qui lui était assis. Et bien sûr, cela ne nous facilite pas la tâche à l'imaginer, tant cela reste éloigné de notre réalité terrestre. Lorsque nous en faisons comparaison avec notre quotidien humain, combien tout ce qui peut motiver nos énergies, nos ambitions humaines, nous apparaissent dérisoires. Que ce soit la poursuite du succès dans ce monde, ou la richesse, ou du pouvoir qui anime le genre humain depuis son origine, dérisoire, oui. Les humains sont prêts à tout pour briller au regard de tous. Mais ça restera toujours une gloire bien pâle en comparaison de cette vision du ciel qui nous est donnée par l'apôtre Jean. Parmi les grands noms des personnages illustres que nous a laissé l'histoire de l'humanité, pas un seul n'a eu une fin semblable à cette vision. Que ce soit les divers potentats qui ont saigné leur génération dans la folie des guerres, de par leur arrogance et leur orgueil, et combien ils ont été nombreux, et toujours et encore. Mais on peut aussi y associer les idoles médiatiques, du showbiz, du sport, de la finance, de la politique, et tant d'autres. Rien que de la vanité et du néant, dit l'Ecclésiaste. Et puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour la faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 11. Et à l'opposé de ce texte, il y a cette promesse du psaume 23 avec le Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors, Que nous inspire cette vision du ciel décrite par l'apôtre Jean? N'est-elle pas un argument suffisant pour nous amener à nous détacher de toutes nos ambitions éphémères, pour que nous discernions mieux ce que sont les vraies valeurs au regard de Dieu? Alors examinons ensemble ce que nous dit l'Écriture concernant notre Seigneur, l'agneau de Dieu, dans son humanité. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Lui, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Nous avons là une manifestation extraordinaire du degré de l'amour de Dieu le Père dans cet acte immense. Consentir à se séparer de son Fils bien-aimé, le Christ, le laisser porter sur lui toute l'ignominie de la race humaine, c'est-à-dire la nôtre, tout ce que nous pouvons imaginer comme horreur du péché, Jésus a tout pris à son compte. Il en a subi la colère, le châtiment et la mort sur la croix, à notre place. Peut-être minimiserons-nous les souffrances physiques et morales, spirituelles du Christ, en pensant que lui qui était de condition divine, c'était certainement plus facile pour lui de supporter la croix. Mais c'est oublier que le Fils de Dieu, en Christ, s'est fait pleinement homme. Il en a même pris la forme modeste du serviteur, physiquement semblable à nous, en tout point, mis à part le péché. À Gethsémané, il a même supplié son Père dans sa prière s'il n'y avait pas un autre chemin pour accomplir l'œuvre rédemptrice. Si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Évangile de Matthieu, chapitre 26. Non, il n'y en avait pas d'autre. Alors le texte nous dit qu'il s'est abaissé en devenant obéissant jusqu'à subir la mort ignominieuse sur la croix. Il nous arrive parfois d'être touchés quand nous lisons les récits de certains autres personnages bibliques, ceux que l'on désigne comme étant des types de Christ, tel Abraham et le sacrifice d'Isaac, ou Joseph trahi par ses frères et les pardonnant au bout du compte malgré qu'il avait eu l'occasion d'assouvir sa vengeance. Mais ça reste bien en deçà de cette perfection du don total de soi qu'est l'œuvre du Christ. Que nous inspire-t-elle à nous, enfants de Dieu, adoptés par le Père? Alors voilà pourquoi l'apôtre Paul insiste pour nous inciter à reconsidérer notre engagement dans la qualité de notre relation personnelle avec le Christ, mais pas seulement, aussi entre nous, les uns avec les autres, dans l'Église. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 5. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est à Jésus-Christ. Et oui, c'est ça, vivre ensemble l'Évangile. Alors, où en sommes-nous, chacun, personnellement? Trouvons-nous quelques raisons de rester en marge du troupeau parce que nous aurions été déçus par l'une ou l'autre des brebis? Campons-nous sur nos positions irritables, critiquant toutes les faiblesses constatées chez les autres, susceptibles à la moindre contrariété, désireux de vivre de l'affection des autres, mais radins pour offrir la nôtre? Que nous inspire l'œuvre et le caractère de la personne du Christ? Cela ne relativise-t-il pas nos contrariétés, nos petits déboires personnels? N'avons-nous pas ce désir de voir le peuple de Dieu se mettre en mouvement pour une marche résolue, manifestant l'évangile de Christ? S'il existe une définition de l'œuvre de Christ, je la situerai dans ces versets, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Sommes-nous de ceux qui tiennent une ardoise sur les offenses que nous avons subies? En Christ, Dieu a effacé notre ardoise. Que ferons-nous de celles que nous pouvons conserver au détriment de nos prochains, qui peut-être sont aussi parfois nos frères et sœurs en Christ? Les garder pour une utilisation tonitruante, le bon moment? La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on. Dieu a tout mis en œuvre et a payé de sa personne pour que toute notre ardoise personnelle soit effacée. Nous n'avons pas le droit d'entretenir ces racines d'amertume, de nous laisser envahir par la pitié de nous-mêmes et la rancœur envers les autres. De la même manière que nous avons su déposer notre fardeau du péché au pied de la croix en venant à Jésus le jour de notre conversion, eh bien, c'est cette même démarche que Dieu nous invite à faire en tant que chrétiens, enfants de Dieu, déposer le fardeau de la rancune, de la critique, de la dureté de cœur et aussi les fardeaux de nos blessures de vie. Certains ont pensé qu'après la conversion, nous n'aurions plus besoin de nous rendre au pied de la croix. Ça, c'est une grave erreur. Sans la croix, il n'y a pas de victoire possible. Et tout au long de notre chemin de vie, nous avons à y venir et à y revenir à la croix. Et n'oublions pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés par lui au ministère de la réconciliation, dans l'Église, dans la famille, dans la société. Nous devons être d'authentiques ambassadeurs de Jésus, l'agneau de Dieu. Rappelons-nous le commandement nouveau que le Christ avait laissé à ses disciples en Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vivre ensemble l'Évangile. Voilà quel est notre programme pour le reste de notre chemin de vie ici-bas. Et même s'il n'est pas écrit au-dessus de la porte de l'épec, n'oublions pas que ça nous concerne aussi. La bonne question, le désirons-nous vraiment? En avons-nous les moyens? Par nous-mêmes, je ne crois pas. Mais dans le Seigneur. Dans le Seigneur, oui. Selon Paul dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 3. Mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. C'est une belle promesse pour remonter l'ardeur de notre flamme dans le Seigneur et pour le Seigneur. Alors, que notre Dieu nous ranime cette flamme en chacun de nous et que nous le manifestions par nos vies de vrais témoins de l'Évangile dans son Église et au dehors, ici à Cavaillon. Amen. Prions. Seigneur, nous nous sentons tous concernés par ta parole et nous avons tous de nombreux progrès à faire, moi le premier. Merci Seigneur pour ton soutien. Merci de parler sans cesse à mon cœur, chaque fois qu'il y en a besoin. Nous t'en bénissons, Seigneur, et que la manifestation de cet amour dont nous sommes au bénéfice puisse se voir, puisse se révéler au dehors, Seigneur, ici, dans cette ville de Cavaillon, dans nos familles, partout où nous allons, où nous sommes. Merci, Seigneur. Fais de chacun de nous tes ambassadeurs. Merci. Amen. Amen.